Gloire à Jésus dans l'Église. Conclusion. L'Église étrangère. Oui, viens, Seigneur Jésus, enlever ton Église. Au terme de ces soirées, chacun de nous est amené à se demander, premièrement, s'il a bien de l'Assemblée de Dieu la réelle notion que donne l'Écriture, et deuxièmement, s'il tient bien dans cette Assemblée la place que le Seigneur lui assigne. Si nous avons compris ce qu'est l'appel que nous avons reçu, nous sommes exhortés, dans l'Épître aux Éphésiens, à marcher d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés. C'est sur cette pensée que je désirerais voir s'achever ces moments d'étude, la pensée de la grâce qui nous a été faite d'être appelés, au milieu de la ruine générale de l'Église responsable ici-bas, à marcher d'une manière digne, digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards, Épître aux Colossiens, digne de l'Évangile, Épître aux Philippiens, digne de Dieu qui nous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire, Épître aux Thessaloniciens. Cela est à réaliser individuellement. Mais il y a avant tout cet appel collectif, cet appel de l'Assemblée que nous trouvons dans les Éphésiens. Nous ne sommes pas appelés à refaire l'Assemblée, mais nous sommes appelés, tous les chrétiens sans distinction, par la grâce de Dieu, à recevoir de celui qui ne cesse de donner à son Assemblée les ressources dont elle a besoin. Et quiconque a compris qu'il appartient à l'Église est appelé à marcher comme l'Église était appelée à marcher tout entière. Or la conclusion peut-être la plus remarquable de nos moments d'étude, c'est que l'Église est une étrangère. L'Église est étrangère maintenant ici-bas avons-nous chanté. Cela contient toutes les instructions qui se rapportent à elle. Elle est étrangère dans le monde, et elle n'est pas seulement une étrangère pour le monde, elle est antagoniste du monde. Entre l'Assemblée et le monde, il y a l'antagonisme total dont parle le Seigneur lorsqu'il dit des siens « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, et pourtant je ne te demande pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. » Dans le monde, mais pas du monde. Ce n'est pas seulement une question de différence, allant jusqu'au contraste, mais une opposition irréductible. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, 1 Jean 2, verset 15. Entre le Père et sa famille d'un côté, et le monde de l'autre, il n'y a pas simplement une insupportable incompatibilité, mais un antagonisme constant, le même qu'entre le chef de ce monde, c'est-à-dire Satan, le prince de ce monde, et celui qui est à la fois fils de Dieu et fils de l'homme, Christ. Il faut que nous réalisions cela. Il faut que nous comprenions que l'Église est étrangère et que, si elle avait été fidèle, elle serait haïe du monde. Alors que, laissée à sa responsabilité comme à son privilège, l'Église infidèle a cessé depuis bien longtemps d'être en conflit avec le monde, sauf précisément sur des questions du monde, de misérables questions temporelles, soit d'influence, soit de richesse. Cela n'enlève rien à la réalité de l'Assemblée, telle que Dieu l'a faite, telle que Dieu la voit, et telle que Christ la prendra. Toute l'histoire de l'Église chrétienne ici-bas n'est-elle pas faite de ces luttes avec les puissances temporelles pour la possession des choses d'ici-bas, alors que ce qui devrait faire notre différence, pour ceux qui ont compris ce qu'est l'Assemblée, c'est que nous n'appartenons plus à la terre, nous appartenons au ciel. Chers amis, tel est notre appel, un appel céleste. Si nous l'oublions, comment réaliserons-nous ce que Dieu nous appelle à connaître dans son immense grâce, savoir la communion avec lui, la communion avec son Fils, la communion entre nous, les souffrances avec Christ suivies des gloires promises, et une bénédiction céleste présente. Combien nous avons besoin d'être réveillés à cette pensée que nous sommes faits par la grâce de Dieu Jean des cieux, Jean de la maison de Dieu. Nos vrais intérêts ne sont plus sur la terre et nous sommes appelés à y être non seulement comme des étrangers, mais comme des forains, des gens qui passent, dont les cœurs ne sont pas là. Nous y avons des devoirs particuliers, certes. Nous avons à y vivre et à y montrer, par l'obéissance à la parole de Dieu, une marche honnête qui doit être en témoignage aux yeux des hommes. Dans les choses les plus humbles de la vie, les plus pratiques, dans l'exercice d'une profession, dans la vie de famille, nous avons à introduire et à faire éclater aux yeux de ceux qui nous entourent des caractères qui sont ceux du ciel. Nous sommes bénis de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est Christ qui est tout pour nous. C'est Christ qui est tout pour l'Église, le centre de tout, comme il l'est pour la pensée de Dieu. Et c'est pourtant Christ qui est méconnu, méprisé, insulté, crucifié moralement tous les jours par le monde. Ce qui peut nous séparer du monde, c'est la croix de Christ. Je suis crucifié au monde, et le monde m'est crucifié. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire « Je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi ». C'est sur ce conflit entre l'Église et le monde que je désirais encore attirer notre attention à tous. N'oublions pas que pactiser avec le monde, avec tous ses principes moraux, avec son organisation, c'est lutter contre Dieu, et cela est très sérieux. Apportons dans notre vie pratique les principes qui sont ceux du ciel. L'Assemblée est en effet l'objet de l'attention des principautés, des autorités qui sont dans le ciel, non seulement les anges, les principautés et les autorités qui ont été conservées dans leur pureté, mais les principautés et les autorités de méchanceté, du mal, qui sont encore dans les lieux célestes. Ainsi notre témoignage ici-bas ne peut que rencontrer, s'il est fidèle, l'hostilité du monde. L'Église professante, dans son ensemble, est allée de ruines en ruines jusqu'à l'état actuel, proche de ce qui est l'apostasie, et elle va être jugée comme le monde parce qu'elle s'est intégrée au monde. Elle sera jugée même avant le monde parce que, justement, elle est plus responsable par le fait de cette apostasie. Or, nous faisons partie encore de cet ensemble. Nous ne pouvons pas en sortir. Oui, comprenons bien que nous faisons partie de l'Église professante. Seulement, comme cela a été rappelé, il y a des professants sans vie et des professants avec vie, des croyants et des incroyants. Alors, les professants qui ont la vie ont la responsabilité, s'ils veulent obéir à la parole, de montrer qu'ils ont la vie. Sortir de la grande maison est impossible. La parabole de l'ivraie est là pour nous l'indiquer avec d'autres passages. Mais il y a quelqu'un qui nous en fera sortir pour tirer effectivement de ce monde ceux qui lui appartiennent. C'est le Seigneur qui vient pour chercher son Église. Mais au sein de cet état de choses, il y a toujours un chemin tracé par Christ, et c'est celui où il veut que les siens soient engagés, dans la séparation du monde, dans la séparation de l'iniquité. Quand on parle de séparation, on pense surtout aux divisions de la chrétienté. Et combien de choses là sont pénibles et humiliantes, en effet. Mais la grande séparation, c'est la séparation de Dieu, et donc des siens, d'avec le monde. Dans toutes les questions d'assemblée, c'est cela qui devrait être mis en avant. Est-ce que nous laissons le monde s'introduire? Est-ce que ce principe, ceci ou cela, est ou n'est pas l'esprit du monde? La parole est là, et l'esprit est là pour nous donner la réponse. Chers amis, il faut que nous prenions ces choses à cœur. C'est le temps de nous réveiller du sommeil. S'humilier est nécessaire, mais les pleurs, les lamentations n'ont jamais rien guéri. Il faut se lever. Lève-toi, dit l'Éternel à Josué. Il faut nous lever, chers frères, le Seigneur vient. Comment va-t-il nous trouver? Ah, puissions-nous être réveillés du sommeil pour une activité telle qu'elle nous a été rappelée dans ses grandes lignes, au sein d'un rassemblement autour de la personne de Christ, au nom de Christ. Assemblée, oui, c'est une chose, Mais assemblés au nom de Christ, voilà la grande caractéristique. Dans toutes les occasions où il nous est accordé de nous réunir ainsi, nous avons, certes, à manifester l'amour, rechercher l'édification, maintenir bien séance et ordre, tout cela est important, et d'autres choses encore, mais il est deux points capitaux que j'ai à cœur de replacer devant nous, comme ne devant jamais être perdus de vue. D'une part, la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui a la puissance. Les diverses opérations sont du même Dieu. L'autorité sur les services et les dons est celle du même Seigneur, mais leur distribution et leur action est du même Esprit opérant dans les saints. La puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de vie est là. Pour qu'il agisse en liberté, veillons à ne pas l'attrister. D'autre part, et j'oserais dire par-dessus tout, le sentiment de la Seigneurie de Christ. Méditons beaucoup ce chapitre 12 de 1 Corinthiens, qui est rempli de ces deux principes, l'opération de l'Esprit, la Seigneurie de Christ. Je rappellerai simplement à cet égard quelques versets du psaume 45. Ils ne se rapportent pas directement à l'Église, mais à l'épouse terrestre. Mais si cela est dit de l'épouse juive, le résidu futur, qui sera placé sous l'autorité et la puissance de l'amour de Christ roi, combien plus ces choses peuvent-elles s'appliquer à celle que dès maintenant il désigne comme son épouse céleste, bien que les noces soient encore à célébrer dans le ciel. Le verset 10 de ce psaume s'adresse à cette reine qui est auprès du roi, parée d'or d'Ophir. Écoute, fille, et vois, et incline ton oreille, et oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi désirera ta beauté, car il est ton Seigneur, adore-le. Oh, que l'Église adore son Seigneur! Nous chantions récemment ton Église chérie t'adore et s'humilie. S'humilier, ici, ce n'est pas tant pleurer sur ses manquements que prendre place au pied de celui qui est le Seigneur, en reconnaissant son excellence, sa dignité, sa gloire. Qu'étions-nous lorsqu'il nous a pris de dessus le fumier, selon les paroles d'Anne, pour nous élever avec les nobles du peuple, plus que cela, au rang de femme de l'agneau? Alors il est dit à l'épouse, oublie, oublie ton peuple et la maison de ton père, oublions les choses du monde. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs de cette pensée bénie, que ton œuvre nous a fait déjà appartenir au ciel, et que notre part est d'apporter sur la terre ce que tu y as apporté toi-même, la pureté et la sainteté du ciel. Toi, le Fils de l'homme, n'es-tu pas descendu du ciel pour y faire entendre le langage du ciel, celui de la grâce et de la vérité? Chers frères et sœurs, que l'attente du Seigneur Jésus nous mobilise davantage. Ce qui est placé devant nous, c'est la venue de celui à qui nous appartenons. Seule notre foi en lui et l'appréciation de son amour ont le pouvoir de nous détacher de ce monde. Ah, qu'elle puisse se lever, la véritable assemblée ici-bas, se lever pour être transmuée, car le Seigneur vient pour cela. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus.